C'est aujourd'hui la fête de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Un très grand dévot de Marie, on le connaît comme un propagateur d'une immense dévotion à la Sainte Vierge. Mais c'est aussi un très grand prédicateur et un homme d'un immense courage. Et quand on étudie sa vie, on s'aperçoit que son exaltation a pu, à certains moments, lui jouer de mauvais tours. Et c'est donc un saint extrêmement intéressant et passionnant à étudier. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Louis Grignon est né le 31 janvier 1673 dans la petite ville de Montfort. C'est une ville de l'ancien diocèse de Saint-Malo, ça nous rappelle des souvenirs, n'est-ce pas, Saint-Malo? Beau port de mer d'où est partie une grande partie de nos ancêtres, Saint-Malo. Aujourd'hui, le diocèse de Rennes, hein, en Bretagne. Il a eu deux frères, dont l'un s'est fait dominicain. Il a eu six sœurs, dont trois sont devenues religieuses, on dirait une famille québécoise d'autrefois. Son père s'appelait Jean-Baptiste Grignon, était peu fortuné, mais il était cependant de famille honorable. C'était un avocat au bailliage, comme on dit, de Montfort. Notre Louis Grignon a été baptisé le lendemain de sa naissance à l'église Saint-Jean de Montfort. Et on l'a mis en nourrice chez une fermière connue sous le nom de Mère André. Cependant, sa mère, Madame Grignon, a voulu donner elle-même à son enfant les premières leçons dans le domaine de la foi, lui apprendre à faire son signe de croix, à prononcer le nom de Jésus, à reconnaître l'existence de Dieu. C'est très important dès la plus tendre enfance. Ma mère a fait ça et je l'en remercie. Et devenu un peu plus grand, Louis Grignon a fréquenté l'école de Montfort jusqu'à l'âge de 12 ans. Ce qui est assez remarquable dans ses premières années, c'est que il avait déjà une application constante à prier. C'est très rare. On trouve d'ailleurs dans ses cantiques, car il a écrit de nombreux cantiques sur des airs populaires. Ça pourra plaire à ceux qui rêvent de faire des messes avec de la musique populaire, mais la musique populaire du temps était moins populaire, dirait-on, je ne sais trop comment dire, que celle d'aujourd'hui. Disons qu'elle était moins païenne. Et donc, mais elle devait sembler très audacieuse, la musique populaire comparée aux chants vraiment religieux, traditionnels. Alors, on trouve donc dans ses cantiques comme un écho des joies qu'il a ressenti à l'occasion de sa première communion. Hier, le fils d'un de mes amis a fait sa première communion et ça m'a fait penser que c'était moi l'anniversaire de ma première communion hier, le 64e anniversaire. Que de communions qui m'ont nourri. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle dès ici-bas, dit Jésus. Le jour de sa confirmation, il témoigne déjà, notre Louis-Marie, de sa dévotion à la Mère de Dieu, en ajoutant le nom de Marie à celui de Louis. C'est de là que vient, au moment de sa confirmation, son nom de Louis-Marie Grignon de Montfort. En 1685, le jeune Louis-Marie arrive à Rennes pour commencer ses études latines, son collège classique, si vous voulez, au célèbre collège des Jésuites, justement. Il s'y fait remarquer par ses connaissances, sa vertu, et surtout par sa dévotion à Marie qui va l'habiter jusqu'à son dernier souffle. Je vous en expliquerai tout à l'heure le contenu, c'est très important. Il était réservé avec ses condisciples, il prodigue des soins empressés aux pauvres. Il ne craint pas de quêter même pour les pauvres, et alors, à 14 ans, il est déjà considéré comme une espèce de bienfaiteur des pauvres, des itinérants, des indigents. Il est aussi considéré comme une sorte d'ange gardien des malades. Ses professeurs, jésuites, sa famille, sont très fiers de lui. Monsieur Grignon, lui, son père, est venu habiter à Rennes pour assurer l'éducation de ses deux fils les plus jeunes. Alors, Louis-Marie accepte de se faire leur professeur tout en continuant ses études. Il avoue lui-même plus tard qu'il avait beaucoup de peine à vaincre son tempérament qui était violent et irascible. C'est intéressant, un saint qui était violent et irascible. Et avec la grâce, sa violence, son irascibilité va se transformer. Elle va toujours l'habiter, ça va toujours être en lui. Mais ça va se transformer en quelque chose d'une violence pour Jésus et d'une impatience pour Marie, je dirais. Il reçoit d'ailleurs de la très sainte Vierge l'assurance qu'il va être prêtre. Mais pour se préparer à l'ordination, bien, il sent le besoin de s'éloigner de sa famille. En 1693, il part pour Paris, où une demoiselle de Montigny, de nom québécois, une demoiselle de Montigny, a obtenu pour lui son admission au séminaire de Saint-Sulpice. Donc, il va aller étudier au séminaire de Saint-Sulpice, comme on en a eu à Montréal. Notre grand séminaire est un grand séminaire de Saint-Sulpice sur la rue Sherbrooke, dans l'Ouest. C'est là qu'on étudie pour devenir prêtre. Je le signale pour ceux qui songeraient à le devenir. C'est pas compliqué, en plein cœur de Montréal, pas loin de du métro Guy. Une dame charitable consent à payer sa pension. Alors, son père, M. Grignon, après avoir fait quelques oppositions, a fini par donner son consentement. Louis-Marie laisse le nom de Grignon pour s'appeler simplement Louis-Marie de Montfort. Il veut se présenter à Paris très simplement. On dirait même comme un mendiant. Et Mademoiselle de Montigny ne reconnaît plus en lui le jeune homme de bonne tenue qu'elle a vu à Rennes. Alors là, elle le trouve plutôt original. C'est un original. Mettez-vous bien ça dans la tête. Vous aimez ça? Des prêtres un peu originaux? Eh bien, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort pour être leur patron. Il décide de lui faire faire, un stage chez un monsieur de la Barmondière pour le former aux usages ecclésiastiques, comme on dit. Il en aurait besoin, paraît-il. Alors, monsieur de la Barmondière voit en lui quand même, c'est un homme perspicace, c'est un homme, mais il voit l'étoffe d'un saint chez Louis-Marie. Alors, il laisse notre Louis-Marie suivre son attrait pour la pénitence. Et Louis-Marie Grignon, ou plutôt Louis-Marie de Montfort, puisqu'il veut s'appeler comme ça maintenant, embrasse toutes les pratiques de la communauté. Il suit à la Sorbonne, l'Université de Paris, les cours de théologie. Puis là, il y a une disette qui survient à Paris à la fin de 1693, la même année. Ça oblige ses bienfaiteurs à cesser le paiement de sa pension. Qu'est-ce qu'il va devenir? Alors Louis-Marie demande la permission de se faire frère quêteur. Il consent à veiller pendant la nuit les morts de la paroisse de Saint-Sulpice, car on veillait les morts la nuit. Hein. Quand j'étais jeune, c'était comme ça. On n'enfermait pas nos morts dans des salons funéraires. On les veillait toute la nuit. On avait une foi différente. Hein. Et voilà, lui, une façon d'apprendre le détachement du monde. Et après la mort de monsieur de la Barmondière, Louis-Marie de Montfort passe dans la communauté d'un monsieur Boucher. Un nom bien différent de la Barmondière, il passe à un monsieur Boucher, un nom très simple. Hein? Docteur en Sorbonne, il y contracte une maladie grave, occasionnée par la pauvreté de la nourriture, le froid, l'accablement du travail. Alors on le conduit à l'hôpital. Ça le remplit de joie. Vous savez, on pratiquait des saignées dans le temps. Ça le réduit à l'extrémité. Mais sur l'assurance qu'il en donne, il est remis sur pied au bout de quelques jours et pendant sa convalescence, il lit les lettres spirituelles du révérend Père Surin. Connaissez-vous ça? Ah, c'est fantastique. J'ai ça ici. La correspondance de Jean-Joseph Surin publiée dans la Bibliothèque européenne chez Desclés de Brouwer. C'est un immense volume. Oh! J'ai jamais tout lu, mais c'est à près de 2000 pages. C'est sur un beau papier, c'est magnifique. Et c'est passionnant, lire les lettres sont de toute beauté. Le Père Surin, jésuite, ah, c'est beau. Alors lui, il a lu ça, et puis ça le remplit de, comme on dit dans un texte un peu qui date, ça le remplit de lumière et de suavité. Et je crois que c'est difficile de dire ça dans d'autres mots, parce que c'est bien ça. Alors sa réputation à notre Louis-Marie de Montfort le fait admettre au petit séminaire, car il a déjà une réputation de sainteté. Et à l'abri des influences jansénistes, là, il y reçoit un enseignement tout à fait orthodoxe. parce qu'il y a la lutte contre le jansénisme à l'époque. Il voit dans la dévotion envers Marie un moyen d'aller à Jésus. Je répète, il voit dans la dévotion envers Marie un moyen d'aller à Jésus. C'est ça le cœur de sa dévotion. C'est pas Marie en elle-même. Il recherche, avec une singulière prédilection, je dirais un grand désir, les écrivains qui ont le mieux parlé de la mère de Jésus. Et pendant les 5 années qu'il passe ensuite au séminaire de Saint-Sulpice, bien Louis-Marie de Montfort donne l'exemple d'un élève, d'un étudiant toujours appliqué. C'est un jeune clerc, un jeune séminariste obéissant. Il pratique la pénitence, la mortification saine, puis il est recueilli. Les rares occasions qu'il a de sortir montrent chez lui un tel désir d'aider les pauvres qu'on le lui reprochera. Et sous la direction, parce que c'était assez particulier, il allait très loin, et sous la direction de Sulpicien, M. Le Chassier puis M. Brenier, veulent voir qui il est vraiment, bien, eux, ils cherchent à le faire entrer dans le monde. Et puis, il se prête à ce que l'on exige de lui sans se troubler, ni rien perdre de sa douceur, et son attitude finit par fléchir les Sulpiciens. On en vient à lui convier des charges importantes. On lui fournit des occasions de donner des instructions, des petits cours, là, aux jeunes gens et aux domestiques. On lui permet même d'accroître sa dévotion envers la Sainte Vierge par des pèlerinages. Vous savez, les pèlerinages traditionnels de l'époque et qui durent toujours à Notre-Dame de Chartres. Bien oui. Il faut aller à Chartres quand on va en France. C'est quelque chose de... c'est merveilleux. Puis il y avait aussi le pèlerinage à Notre-Dame de Paris. Il faut vraiment faire visiter Notre-Dame de Paris en pèlerinage. Il ne faut pas aller là comme des touristes. Il est ordonné prêtre le 5 juin 1700. Et puis, Louis-Marie Gagnon, suivant la pratique de l'époque, bien, il consacre une semaine entière pour se préparer à la célébration de sa première messe. Alors, Louis-Marie de Montfort rêve de prêcher des missions en Bretagne. Des missions, si vous voulez dire, si vous préférez, des retraites en Bretagne. Et M. Le Chassier, là, le Sulpicien, l'attache à la maison de Saint-Clément, fondée à Nantes, là-bas, par un ecclésiastique. Il s'appelle un M. l'évêque. Mais son protégé lui fait bientôt savoir qu'il ne trouve pas là ce qu'il attend. Et Louis-Marie veut autre chose. Il omet cependant de dire que ce qui le gêne, c'est la présence de confrères jansénistes. Aux yeux des jansénistes, la doctrine du nouveau venu paraît suspecte. Alors ils veulent lui faire subir un examen de théologie avant de lui donner des pouvoirs. Puis là, il est appelé à l'abbaye de Fontevraud. À l'abbaye de Fontevraud, pour la prise d'habit d'une de ses sœurs, qui se fait moniale. Et Louis-Marie de Montfort confie ses perplexités à Madame de Montespan, qui l'engage à soumettre son point de vue à l'évêque de Poitiers. Alors Louis-Marie Grignon de Montfort part pour Poitiers. Il fait à pied le trajet, puis arrivé au but, il doit attendre le retour de l'évêque pendant 4 jours, qu'il emploie une petite retraite au service des malades de l'hôpital. Et la réception par l'évêque est plutôt froide. L'évêque veut se donner du temps pour réfléchir, et Louis-Marie, durant tous ces délais, rentre à Nantes, où son monsieur l'évêque, influencé par une intervention du Sulpicien, là, monsieur Le Chassier, autorise ce jeune missionnaire de feu à prêcher sans examen préalable une mission dans la paroisse rurale de Grandchamp. Et avec ce début de prédication, va jaillir au cœur de ce saint une œuvre immense qui dure encore aujourd'hui, on le sait, à Montréal, avec le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs, où ses fils, les Montfortins, exercent un apostolat immense. Alors, le succès de sa prédication à Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort est important. Ça débute comme un taureau. Monsieur Le Chassier, à qui Louis-Marie en rencontre, l'encourage. Mais il y met une certaine réserve. Il aurait voulu le voir suivre les voies ordinaires, la prédication plus ordinaire, quoi. Les malades de l'hôpital de Poitiers réclament le père de Montfort. L'évêque l'appelle définitivement dans son diocèse. Alors, il est consulté sur ce point, là, Monsieur Le Chassier. Puis, il autorise ce changement de façon assez... avec peu d'encouragement. Quant à Saint-Louis-Marie, Il emporte de son séjour à Nantes la détermination de démasquer par tous les moyens la secte janséniste, les gens qui ont passé, les gens qui n'ont pas de caractère, de courage et un peu de violence. Vous savez, je vous ai dit qu'il y avait un caractère violent, hein? Alors il passe par Saumur. J'ai déjà expliqué ce que c'est que Saumur, je n'y reviens pas. Il se rend en pèlerinage à Notre-Dame des Ardillés, pèlerinage très réputé à l'époque, puis achève le voyage de Poitiers en mendiant son pain, tout simplement. Quel missionnaire simple. Il n'arrive pas dans une grosse bagnole, pas du tout. Il va à pied, il mendie, puis en attendant d'être admis comme aumônier à l'hôpital général, il commence ses prédications dans la ville, puis donne l'impression d'un saint. Survient Mademoiselle Trichet, fille d'un magistrat. Elle se présente un jour à son confessionnal. Il croit voir en elle une envoyée de la Très Sainte Vierge. Or, cette demoiselle Trichet, il y a une école qui porte ce nom, où il y a des jeunes filles admirables qui m'écrivent et qui me disent qu'elles écoutent mon émission. Je les salue en passant. Petite fille de 15 ans, je vous en ai parlé l'autre jour. Alors, mademoiselle Trichet, c'est la fondatrice de sa future congrégation des filles de la sagesse. Ah, qu'elles étaient belles, ces filles de la sagesse, dans mon enfance, je les aimais. Elles avaient ce costume absolument fabuleux. On peut plus porter ça aujourd'hui, peut-être. Grand costume gris avec cette coiffe blanche, étrange et magnifique. Ah, que c'était beau ce temps-là où il y avait de la beauté, il y avait de l'exagération, de l'excentricité même. C'était intéressant. La mission de Poitiers alors dépasse l'attente de notre missionnaire. Il l'écrit à M. Le Chassier et celui-ci approuve son règlement de vie. Il l'engage à choisir sur place un bon directeur. Choisir un bon directeur, c'est donc pas facile. Alors admis à l'hôpital de Poitiers, Saint-Louis-Marie-Grillon de Montfort, se donne tout entier au service des pauvres, tout entier au service des pauvres. Et ces exemples de pénitence et de mortification sont pour lui la source de problèmes qui vont finir par amener son départ de l'hôpital en 1702, après la mort de Mgr Girard, son protecteur. Mais cependant, l'activité qu'il déploie pendant la première année de son séjour à Poitiers, là, amène d'heureux résultats. Ben oui, il jette les premiers fondements de sa congrégation des filles de la sagesse avec Marie-Louise Trichet, dont je vous ai déjà raconté la vie. Mais d'autres ennuis l'appellent ailleurs. Pour tirer de difficultés sa jeune sœur Louise, là, il se rend à Angers pour demander l'aide des Sulpiciens, ses anciens maîtres. Mais les jansénistes ont prévenu contre lui, M. Brunier, dont je vous ai parlé, qu'il l'insulte devant tout le séminaire. Les Sulpiciens sont contre lui maintenant. Et ce Sulpicien, M. Brunier, le met à la porte et refuse même de lui donner un morceau de pain. A-t-on idée, les Sulpiciens qui martyrisent un saint? Mais mon Dieu! Ah, il y a des choses dans l'histoire, hein? Et Saint-Louis-Marie-Grillon de Montfort se remet en route pour Paris. En y arrivant, il doit aller se faire soigner les pieds à l'Hôtel Dieu. Alors il parvient, avec beaucoup de difficultés, à retrouver sa sœur dans le plus complet dénouement. Du nom de ses sœurs. Il reçoit à ICI, I2SY, là où sont les Sulpiciens, le même accueil qu'à Angers. Son ancien directeur, M. Le Chassier, qui est devenu supérieur général, n'a pour lui que des paroles dures, lui qui l'avait aimé quelque temps avant. Une démarche auprès du curé de Saint-Sulpice, là où s'est fondé Montréal, en fait, en plein cœur de Paris, dans le 6e arrondissement, mais c'est pas plus heureux, sa démarche, là. Après bien des déboires et des humiliations, Saint-Louis-Marie-Grillon de Montfort parvient à faire admettre sa sœur au monastère de Rambervilliers, où elle prend le voile sous le nom de sœur Saint-Bernard. Il ne la reverra plus en ce monde. Mais il l'encourage dans sa vocation par des lettres remplies de foi et de charité. Alors rentré à Poitiers, après avoir conclu cette affaire qui l'avait beaucoup bouleversé, le père de Montfort trouve dans le nouvel évêque un appui et un soutien. Enfin, enfin, il reprend sa mission perpétuelle, comme il dit. Car il se veut toujours en mission. Tous les jours, à toute heure du jour, il est en mission, c'est-à-dire qu'il est envoyé par Dieu auprès des âmes. C'est un prêtre, un prédicateur né. Il donne ses soins aux malades de l'hôpital. Il dirige en ville un bon nombre de gens qui ont besoin de ses conseils. Quel homme admirable! Saint-Louis-Marie-Grillon de Montfort veut former le noyau de sa congrégation. Il a réuni, avant son voyage à Paris, un certain nombre de pauvres filles infirmes qui sont animées d'un esprit d'humilité, puis de sacrifice. Ça prend ça pour fonder, hein? Alors il a obtenu pour les rassembler, un appartement isolé. Il l'appelle la sagesse, car il a un tel respect pour la sagesse, telle que c'est exprimé dans l'Ancien Testament. Quand il veut donner une tête à ce corps, il songe évidemment à Mademoiselle Trichet, qui se morfond dans le monde. Elle attendait toujours de lui une décision pour son entrée en religion, alors il l'invite à venir à l'hôpital, à y être admise comme pauvre, sur une recommandation de l'évêque, qui est de son bord. Et Saint-Louis-Marie la nomme supérieure. Il lui donne un habit de grosse étoffe grise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tel qu'on l'a porté, hein, je dirais, jusqu'en 1967, 70 peut-être, les Sœurs de la Sagesse. Alors, il lui fait prendre le nom de Marie-Louise de Jésus. C'est le 2 février 1703, le jour de la fête de la purification de Marie. Hein, le 2 février 1703 que ça a été fondé. Et dans la douzaine de recluses, là, si on peut dire, se regroupe autour de la fondatrice... se passe des choses un peu spéciales. On pourrait dire que si le démon existe, et je crois bien qu'il existe, il n'aime pas ces fondations-là. Il voit des ennemis dans ces femmes-là. Alors, il profite des excentricités du père de Montfort pour soulever contre lui jusqu'aux évêques. Je vous l'ai dit que c'était un excentrique. Une espèce de... dans son genre, différent, mais de Saint-Philippe Néri. Dont je vous ai déjà parlé, j'y reviendrai à Saint-Philippe Néri. Et les choses en viennent à ce point que l'évêque finalement lui interdit de célébrer la messe. Alors bien que soutenu par son confesseur, qui le connaît bien, qui s'appelle le père de la Tour, Saint-Louis-Marie pense qu'il serait préférable pour lui de quitter la place, l'endroit. Alors il retourne à Paris, où durant 2 ans, il subit des tas d'humiliations. À l'hôpital de la Salpêtrière, qui est très connu à Paris, hein, où il offre ses services. On lui signifie son congé au bout de 5 mois. Alors, il est logé dans une petite rue, la rue du Pot-de-Fer. C'est un joli nom, hein, la rue du Pot-de-Fer. Non loin du noviciat des Jésuites. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il vit d'aumône. Puis ça donne à la contemplation. Pauvre homme! Il en vient à songer à quitter toute forme d'apostolat. Il se dit qu'il est peut-être fait pour la contemplation. Son confesseur le détourne de cette idée-là. Son confesseur l'aime et le comprend bien. Dans ses lettres, Marie-Louise Trichet, qui est toujours à Poitiers, Saint-Louis lui demande d'organiser en sa faveur une croisade de prière. Il lui écrit ceci. « Je ne connais plus ici d'amis que Dieu seul. Ceux que j'avais autrefois à Paris m'ont abandonné. » En somme, il est prêtre suspect. Il est devenu un homme de rien, ce pauvre Saint-Louis, Marie. Il songe plus que jamais à se survivre dans ces 2 congrégations qu'il a fondées à côté des Filles de la Sagesse. Il songe en effet à établir une petite société de prêtres pour les missions, les Montfortins aujourd'hui. Il faut dire cependant que certaines autorités ecclésiastiques songent à lui rendre justice quand même, hein, pour reconnaître que l'archevêque de Paris, informé de sa sainteté, lui confie la mission délicate de réformer les ermites du Mont-Valérien. À Poitiers, on réclame son retour. Quand il reparaît dans son accoutrement misérable, tout est à refaire à l'hôpital. Alors il se met à l'œuvre avec courage, et une fois de plus, après quelques mois, on lui signifie son congé. Et sur la vie de sœur Marie-Louise de Jésus, Marie-Louise Trichet, il sort. Mais dans un esprit prophétique, il dit à sa fille spirituelle, « Ne quittez pas ce lieu avant 10 ans. Quand l'établissement des Filles de la Sagesse ne se ferait qu'au bout de ce temps de 10 ans, Dieu serait satisfait dans ses projets, et ses projets sur vous seraient remplis. Alors le soir même, il va porter sa démission aux administrateurs de l'hôpital. Il rentre ainsi dans sa vraie vocation de missionnaire. Et nous verrons tout à l'heure cette vocation de missionnaire fantastique qui va habiter Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort et en faire l'un des plus grands saints de tous les temps. Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort va trouver l'évêque de Poitiers qui le comprend. Il en obtient plus qu'il ne demande. Il est autorisé non seulement à prêcher, il est aussi établi directeur d'un couvent, le couvent des pénitentes. Et plus que jamais, il règle sa conduite de missionnaire. Comment? Comment il fait pour être missionnaire? Il lit l'Évangile, puis il regarde les règles de l'Évangile puis il les met en pratique. En somme, il a l'audace des saints. Il est extraordinaire. Hein? Il va prêcher n'importe où. On l'a vu même grimper au besoin sur un arbre pour être mieux entendu. Voyez-vous ça, aujourd'hui, un prêtre en soutane, là, monter sur une branche d'arbre pour prêcher. Avant de parler, il tire son grand crucifix. Il le montre à l'assistance avec une telle flamme dans le regard que tout le peuple se prend frémir qu'à demander pitié, miséricorde au cœur de Dieu. Parce qu'ils se rendent compte des souffrances de Jésus et de l'amour de Dieu qui s'exprime dans un crucifix. C'est tout l'amour du Père qui crie par la bouche de Jésus. Des auditeurs disposés à rire de ses excentricités sont au bout de quelques instants subjugués. Ils sont subjugués par lui. Ils sont convaincus. On dit même qu'il y en a qui sont terrassés, qui vont jusqu'à se frapper la poitrine et qui fondent en larmes. C'est tout un prédicateur. C'est une autre époque. Aujourd'hui, ça se ferait plus, peut-être. Je sais pas. Je le sais pas. Il interrompt son sermon des fois à cause des sanglots de son auditoire. Il va même jusqu'à crier à un moment donné, « mes enfants, ne pleurez pas. Vos pleurs m'empêchent de parler. Et si je ne me retenais pas, je m'abandonnerais moi-même aux larmes. » C'est extraordinaire. Alors, les pays qu'il va évangéliser ont beaucoup souffert des guerres de religion. Hein. Je vous ai déjà parlé de ça il y a quelques jours. Alors, le clergé, il est en grande partie gagné aux nouvelles doctrines du jansénisme. Pauvre clergé, qui se laisse prendre. Hein? Alors, il doit conquérir pied à pied tous ses diocèses de l'ouest de la France et de la Bretagne. Ses armes, c'est cette croix qu'il tient la main et son rosaire. La croix, c'est pour refouler, on pourrait dire, tout ce qu'il y a de sensuel, de sensualisme, quoi. Son rosaire, mais c'est pour ranimer cette dévotion profonde à Marie. On y joint le chantier cantique à lui, ces cantiques qu'il a composés, qui sont des vraies leçons de catéchisme rimées, une espèce de sorte d'abbé Robert le Bel, quoi, que je salue, que j'aime bien. Et ce théologien, ce poète, cet apôtre aux ailes de feu qui est Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, commence en 1705, ses missions, par l'évangélisation en règle des paroisses de Poitiers. Alors là, il relève aussi des sanctuaires qui sont délabrés. Il organise des processions, oui, des processions. On n'en fait plus maintenant, ou presque pas. Et dans l'intervalle de ses missions, des retraites là, qu'il prêche à la campagne, il établit à la communauté des pénitentes, dont il a soin, c'est souvent une mission en permanence. Dieu lui envoie un auxiliaire dans la personne d'un jeune homme. Oui, un jeune homme qui s'attache à lui. Et c'est extraordinaire, sous le nom de frère Mathurin, il va faire le catéchisme pendant 50 ans dans les missions avec le père de Montfort. Soit avec le père de Montfort, évidemment, ou soit avec ses successeurs. Et les exhortations contre les livres impies. Aujourd'hui, il y a des exhortations faites par des féministes contre les livres sensuels, ce qu'on appelle la pornographie. C'est souvent des athées, des agnostiques qui font ces campagnes. Mais il y a aussi des catholiques et des chrétiens, des juifs et d'autres, et des musulmans aussi, qui s'attaquent à ces livres épouvantables qui détruisent l'âme de nos enfants. Alors, les exhortations contre les livres impies et obscènes ont bientôt pour accompagnement l'acte, il va très loin, de brûler solennellement ces livres qui font tant de tort, et de planter une croix sur le lieu de ce qu'on appelle un auto-da-fé. Il va très loin jusqu'à brûler les livres. Je ne suis pas nécessairement d'accord. Alors, des fidèles aux ailes mal réglées ont renchéri sur cette idée, puis placent sur le tas de livres une figure représentant le démon. Le démon, sous quelle forme? Sous la forme d'une femme de vie, une femme qui a perdu son âme. Pourquoi? Parce que les hommes ont abusé d'elle. Et le Christ, lui, il est allé chercher Marie-Madeleine et en a fait une sainte. Et je crois que ces pauvres chrétiens-là sont de pauvres malheureux qui n'ont rien compris à l'Évangile quand ils posent un geste pareil. C'est une horreur. Les jansénistes, puis les libertins, d'autre part, c'est-à-dire les incroyants, s'objectent avec raison à ces gestes-là, Une plainte est portée à l'évêché, puis en l'absence de l'évêque, le vicaire général favorable aux jansénistes vient à l'église du Calvaire donner une leçon à Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Alors, ce pauvre prédicateur se met à genoux. Il écoute sans dire un mot les remarques les plus mortifiantes. Alors là, le vicaire général interdit la cérémonie annoncée. Le père de Montfort termine par ces quelques mots. « mes frères, mes sœurs, nous nous disposions à planter une croix à la porte de cette église. Eh bien, alors plantons-la dans nos cœurs. Elle y sera mieux placée que partout ailleurs. » Et là, il récite le rosaire. Et plus d'une fois, il lui arrive de ces difficultés qu'il réduise à l'inaction. Il est interdit par les évêques, il va jusqu'à Rome pour soumettre au pape son enseignement, sa méthode d'évangélisation, puis ses œuvres. Il se met à sa disposition pour continuer ses travaux, soit en France, soit dans les pays infidèles, et le pape Clément XI l'encourage. Il lui donne le titre de missionnaire apostolique, c'est-à-dire un missionnaire qui dépend directement du pape. Au retour de Rome, Louis-Marie Grignon de Montfort fait les pèlerinages de Notre-Dame des Ardiliers et du fameux Mont-Saint-Michel. Vous êtes allé au Mont-Saint-Michel, magnifique, où il y a quelques moines bénédictins maintenant. Il passe par Rennes, où ses parents vivent encore. Mais au lieu de se rendre chez eux, il s'établit dans un taudis, près du collège des Jésuites. Il fait ses visites à l'hôpital, espérant passer incognito. Il est découvert, puis consent à finalement accepter un repas au milieu de sa famille. Et de février à septembre 1707, il prêche dans les diocèses de Saint-Malo et de Saint-Brieuc. Partout, il opère des conversions, il réalise parfois des prodiges, mais il est rejeté par les gens de Saint-Brieuc, comme il l'a été par les gens de Poitiers, par les gens de Rennes, comme le Christ qui était rejeté, puis il disait qu'il fallait secouer la poussière de ses chaussures quand on part comme ça. Alors il va se recueillir près de sa ville natale, dans l'ancien prieuré de Saint-Lazare. Et l'idée alors lui vient de donner une retraite, quoi, une mission. Mais jamais prédication n'a été plus éloquente, dit-on. C'est un peu exagéré. L'épreuve va suivre. L'évêque de Saint-Malo, il gagne au jansénisme, arrive pour défendre à Louis-Marie Grignon de Montfort de confesser et de prêcher dans le diocèse. Et là, ce grand saint se retire sans dire un mot. Mais à la demande d'un curé important, l'évêque change sa décision. Là, il y a des intrigues nouvelles qui vont bientôt se produire. Et Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort voit bien qu'il ne peut faire dans son diocèse tout le bien qu'il désire. Alors il passe dans le diocèse de Nantes, où il séjourne 3 ans, et comme partout ailleurs, il y rencontre des difficultés. Une partie du clergé lui fait des oppositions. On s'indigne de ses audaces. On va jusqu'à le maltraiter, et même à le frapper, imaginez! C'est incroyable. Et l'affaire du calvaire de Pontchâteau, là, toute une affaire qui est portée jusqu'à Louis XIV, qui envoie des intendants pour démolir ce qu'on lui représente comme une forteresse des Bretons révoltés parce qu'ils se sont construits un calvaire. Vous savez, les fameux calvaires bretons, là, on voit ça. Alors, Dieu soit béni, dit Saint-Louis-Marie, quand on lui apporte l'ordre royal. Il dit, je n'ai jamais songé à ma gloire, mais à la sienne. J'espère qu'il me recevra avec la même faveur que si j'avais réussi, car c'est Jésus qu'il aime. Les gens pensent que c'est Marie, Marie, Marie. Il aime beaucoup la Sainte Vierge, mais pour Jésus, parce qu'il aime tout d'abord Jésus et sa mère. Alors l'évêque de Nantes, instrument des jansénistes dans cette affaire, aurait dit, c'est un grand saint ou un hypocrite fieffé. Bah, hypocrite, Louis-Marie, ne l'est certainement pas. Et l'évêque le sait bien. Mais les jansénistes l'empêchent de croire à la sainteté de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Et ce saint prédit qu'un jour ce calvaire serait reconstruit. Mais cependant, l'évêque de Nantes ne veut rien faire pour lui. Alors il se met donc à la recherche d'un autre diocèse plus hospitalier. Quelle misère! Ça peut nous donner un exemple. Vous avez de la misère? Persévérez, persévérez. Et ne pleurez pas. À cette époque, vers 1711, il a 48 ans, les deux évêques de Luçon et de La Rochelle, nos ancêtres partaient aussi du port de La Rochelle, eh bien, le demande à la fois. Ils le veulent. Alors, il accepte de travailler à leur service. Il a été chassé de presque tous les diocèses de Bretagne, Mais il quitte sa Bretagne, tant aimée, pour porter sa parole et son cœur à des inconnus. En se rendant à La Rochelle, où l'attend Monseigneur de Chanflour, il s'arrête à Garnaches, dans le diocèse de Luçon, puis lui donne de la mission. Et à Luçon, sa première visite est pour le séminaire dirigé par les Jésuites, et pendant sa messe, il a une extase qui dure 3 quarts d'heure. Comme bien des saints. Moi, je l'ai vu, le père Pio, en 1950. Ses extases duraient comme ça 3 quarts d'heure. La visite au père Capucin, justement, lui inspire un beau cantique sur le respect humain. Invité par Monseigneur de Lescure à prêcher à la cathédrale, il expose, à grands traits, la dévotion au Saint-Rosaire. Il est bien reçu. Et à La Rochelle, où il y a beaucoup de calvinistes, de protestants, je vais vous faire une émission sur Calvin bientôt, là, Monseigneur de Chanflour fait à notre missionnaire un excellent accueil, et dans une retraite générale donnée à l'hôpital Saint-Louis, à cause de l'affluence des auditeurs, il faut faire des instructions en plein air. Là, des prêtres qui sont atteints par le jansénisme crient au fanatisme. L'évêque leur impose le silence. Il demande à Saint-Louis-Marie et Grignon de Montfort 3 missions pour La Rochelle. Une aux hommes, une aux femmes et une aux soldats de garnison. Et entre-temps, Saint-Louis-Marie a pu se rendre à Nantes, où il avait aidé ses communautés. Et c'est alors qu'il compose son petit traité, Le secret de Marie, dévoilé à l'âme pieuse. Et il est publié, ce petit traité, dans un beau livre qui s'appelle « Dieu seul est ma tendresse ». C'est par le père Laurentin, René Laurentin, qui présente Louis-Marie Grignon de Montfort. Hein. « Dieu seul est ma tendresse ». Alors, il y a là le secret de Marie à un moment donné. C'est pas très long, 15 pages. Mais ce livre est magnifique, un très, très, très beau livre. Oh, il y a beaucoup de livres sur Louis-Marie Grignon de Montfort. Il y a « Un prophète de l'espérance » par Marie-Claire et François Gousseau. Vous pouvez lire aussi « Prier 15 jours » avec Louis-Marie Grignon de Montfort chez Nouvelle Cité qui vient de paraître. Bon, il y a « Grignon de Montfort et la Vendée » aux éditions du Cerf. « Grignon de Montfort, le saint de la Vendée » par Monsieur Clénet chez Perrin. Puis quantité d'autres, si vous saviez tout ce qu'il y a. Puis il y a évidemment le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge qui est paru aux éditions du Seuil et tellement d'autres. On n'en finit plus de lire les livres sur le Louis-Marie Grignon de Montfort. Donc, le secret de Marie, dévoilé à l'Empieuse, et développé un peu plus tard, ça va devenir l'opuscule de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Et puis, le retour à La Rochelle, mais c'est marqué par de nouvelles missions. Il convertit beaucoup de monde. Les paroissiens d'une paroisse de Saint-Éloi lui offrent un logement désigné sous le nom de l'Ermitage. Il va être là jusqu'à sa mort. Ça lui plaît d'ailleurs. C'est modeste, c'est bien simple. Il n'aime pas les grands logements. Louis-Marie, fondateur de la Compagnie de Marie, les Montfortins, puis organisateur des Filles de la Sagesse avec Louise-Marie Trichet, c'est un grand saint. Louis-Marie soumet à Monseigneur de Chanflour un projet d'association sacerdotale. Ce projet ne réussit pas faute de prêtres. Après un voyage à Paris, une visite au séminaire du Saint-Esprit, il rentre dans son ermitage de Saint-Éloi, puis il y trace les premières lignes de la règle pour ses futurs missionnaires, puis il laisse volontairement à ses successeurs le soin de perfectionner le tout. L'objet des missions, ce sera, dans sa pensée, quoi? De renouveler l'esprit chrétien dans les paroisses, de recommander en particulier la dévotion au Saint-Rosaire. Et là, le recrutement des sujets, c'est pas très très rapide. Les jansénistes renouvellent leur campagne d'injures et de calomnies, puis quelques années s'écoulent. 4 prêtres, finalement, viennent se joindre à lui, mais seul l'un collabore avec Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, qui porte ensuite son attention vers les Filles de la Sagesse, et petit à petit, il va fonder ces 2 communautés qui grandiront à travers les siècles. Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort reprend le chemin de La Rochelle, puis il donne en route une mission. À son arrivée, il y a 2 pères jésuites qui lui prêtent leur aide pour la grande mission de La Rochelle. Ça réussit à merveille, mais pourtant, au milieu des exercices, Saint-Louis-Marie est atteint d'une maladie qui met ses jours en danger. Alors, il veut continuer à prêcher quand même. Mais au bout de quelques jours, il faut le transporter à l'hôpital. Jour et nuit, il souffre d'un abcès qui a suscité une fièvre ardente, et Saint-Louis-Marie encourage les médecins à ne pas le ménager. Quand la douleur est à son apogée, là, il entonne son cantique, Qu'est-ce que c'est son cantique? Tout simplement, vive Jésus, vive sa croix. Et au bout de 2 mois d'horribles souffrances, la plaie se cicatrise. Il entre en convalescence. Et là, il se remet au travail, mais pour peu de temps. Puis en mars 1714, il donne une mission au Vanneau, dans le diocèse de Saintes. Et là, les influences jansénistes amènent de nouveau l'interdiction de prêcher dans ce diocèse, alors il rentre à La Rochelle. Il est préoccupé par ses fondations, et aussi les frères de Saint-Gabriel. Alors il entreprend le voyage de Normandie pour en discuter avec son ami le chanoine Blain. Et de Nantes, où il fait une retraite chez les pères jésuites, il écrit aux amis de la croix des pages enflammées, et de nouvelles humiliations l'attendent dans le diocèse d'Avranches. Bayeux lui fait une meilleure réception, mais il a hâte d'arriver à Rouen, où il trouve le chanoine Blain bien changé, nullement disposé à l'aider dans l'établissement de sa compagnie de Marie, les Montfortins. Le chanoine lui donne sans ménagement des leçons sur ses excentricités. Et Saint-Louis-Marie accepte humblement les observations, mais il n'a pas de peine à se justifier. Alors là, le chanoine n'a plus alors que des témoignages de vénération pour lui. Il se rend compte qu'en dessous des excentricités, il y a l'âme d'un saint. Et de retour à La Rochelle, Saint-Louis-Marie donne de nouvelles missions. Il se fait le champion des écoles populaires. Il fait venir pour instruire les petites filles deux religieuses de Poitiers. Il ne reverra plus ses filles de la sagesse. En décembre 1715, il leur écrit « Je vous souhaite une année pleine de combats et de victoires, de croix, de pauvreté, de mépris. » Alors, il n'est que trop bien exaucé. Et là, il y a des missions, puis une des dernières de Saint-Louis-Marie, marquée par une conversion éclatante. C'est celle de la châtelaine du pays, Madame Dorion. Cette dame, informée des excentricités de ce missionnaire, s'est promis de plaisanter sur les sermons puis le prédicateur. Et après plusieurs instructions, elle constate qu'il est à la fois solide, instructif et touchant. Et à la suite d'un dîner qu'il a accepté chez elle, elle le voit en extase dans son jardin, à genoux, les bras en croix. Alors elle le presse de demander pour elle une grâce particulière. Puis il le demande. Il lui annonce en même temps qu'il va mourir avant la fin de l'année. Et Saint-Louis-Marie se prépare à la mort par toutes sortes de résolutions, puis fait le pèlerinage encore de Notre-Dame des Herdiliers. Il passe par Fontevraud, où est toujours sa sœur. Fait le sacrifice de ne pas la voir. Il arrive finalement dans une paroisse, la mission de Saint-Laurent-sur-Sèvre, où le pape est allé récemment, en 1716. Il loge dans une chambre abominable. Il s'impose des rudes flagellations, comme on faisait jusqu'à tout récemment, durant les 3 jours qui vont précéder l'ouverture de la mission, car il considère qu'il faut qu'il se discipline pour trouver le feu. Le succès de ses prédications est rapide. On sait que la Sainte Vierge vient s'entretenir avec lui. Et après une des cérémonies présidée par Monseigneur de Chanflure, Saint-Louis-Marie, qui a organisé l'immense procession, doit regagner son misérable petite chambre. Une pleurésie s'est déclarée. Il comprend tout de suite que la mort est proche. Il a promis de prêcher aux vêpres solennelles. Comme il y en a maintenant à la cathédrale, j'y suis allé hier, c'est très beau dimanche après-midi. Il y a des concerts d'orgue à la cathédrale à 3h30, puis des vêpres solennelles à 4h15, suivi de la messe. C'est magnifique. Alors, il ne veut pas compromettre notre cher saint par son absence, le succès de la journée. Il parle de la douceur de Jésus, de sa compassion pour les faibles, de sa miséricorde pour les pécheurs. C'est son suprême triomphe. Il va se coucher anéanti sur la paille. Sur la paille, comme bien des saints, il attend l'heure de Dieu et quelques jours après, il consent sur l'ordre de son confesseur de se laisser déposer sur un matelas. Il demande, puis il reçoit, la très sainte communion. On appelle le saint viatique pour le voyage. Puis il reçoit l'extrême onction qu'on appelle le sacrement des malades. Et là, le 27 avril, il veut dicter son testament. Il dispose de son pauvre bagage de missionnaire en faveur de ses frères. Et des sanctuaires de la Sainte Vierge restaurés par ses soins. Il demande qu'on lui laisse dans le cercueil les petites chaînes qu'il porte au cou, aux bras et aux pieds. Il veut mourir comme il a vécu. Comment? Enchaîné, comme un esclave. Esclave de Jésus et de Marie, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est l'esclave de l'amour. C'est pas l'esclave de la bêtise. Puis, Il se soulève sur son grabat, le crucifix à la main et l'œil rayonnant. Puis il entonne d'une voix vibrante le premier couplet d'un de ses cantiques. C'est les cantiques d'autrefois. Ils sont beaux quand même. Allons, mes chers amis. Allons en paradis. Quoi qu'on gagne en ces lieux, le paradis vaut mieux. Et alors survient un abattement profond. Puis on dirait que, à la suite d'un dernier effort du démon contre lui, c'est la joie de la délivrance qui paraît éclater sur ses traits, puis il expire peu après, le 28 avril 1716. C'est un très grand saint. Aujourd'hui, le message de Grignon de Montfort continue à travers ses disciples, les Montfortins, les filles de la sagesse, les frères Saint-Gabriel. Ils sont dans l'enseignement et dans le travail partout et dans la prédication. Les Montfortins, je vous le rappelle, sont au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs, au métro Cadillac. Il est l'auteur aussi d'un beau livre, L'amour de la sagesse éternelle, qui est à mon avis son principal traité. Il désirait passionnément la sagesse. C'est bien plus qu'un exposé théorique. Hein? C'est un livre qui nous livre le témoignage d'une expérience spirituelle qui est absolument sublime. Les principaux thèmes de l'amour de la sagesse éternelle sont repris d'ailleurs dans le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Et le traité de la dévotion, publié seulement au 19e siècle, c'est devenu un best-seller de la littérature spirituelle. Oh, je pourrais vous parler de Saint-Louis-Marie pendant des mois. Il y a tellement de belles choses. Je pourrais vous lire de ces textes qui sont de toute beauté. Oh, j'en ai en quantité. Je vous lis un tout petit passage. Pour nous vider de nous-mêmes, dit-il, il faut premièrement bien connaître par la lumière du Saint-Esprit notre mauvais fond, notre incapacité à tout bien, notre faiblesse en toute chose, notre inconstance en tout temps, notre indignité de toute grâce et notre iniquité en tout lieu. Le péché est notre premier père. Le premier chez, pardon, de notre premier père nous a tous gâtés. Et nous sommes gâtés par nos premiers péchés et nos péchés tout le temps de notre vie. Hein. C'est ce qu'il veut dire. Et c'est très beau. Ce sont des textes magnifiques. Il dit des choses superbes sur la grâce du pur amour, sur l'union mystique par Marie. L'âme de la Sainte Vierge se communique à vous pour glorifier le Seigneur. Sa dévotion à la Sainte Vierge ne s'arrête pas à la Sainte Vierge. Elle va jusqu'au Seigneur, jusqu'au Père. Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort mérite d'être lu, d'être connu. Je vous recommande surtout « Dieu seul est ma tendresse » de René Laurentin, paru aux éditions de l'Œil, ainsi que ce livre que beaucoup de gens aiment, « Un prophète de l'espérance, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort » par Marie-Claire et François Gousseau, paru chez Pierre Tequi.